Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour la présentation de cet Au-delà des frontières, le dernier roman d'Andrei Makine, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, qui nous arrive tout droit de Paris, après donc en pleine tournée pour ce nouveau roman. Un roman donc publié chez Grasset, c'est un roman relativement intrigant, dérangeant par certains côtés. Un roman assez puissant, qui en tout cas ne peut pas laisser indifférent. Andrei Makine, je crois qu'il faut quand même dire quelques mots. Vous êtes né en Union soviétique, mais vous êtes aujourd'hui citoyen français. Vous êtes même académicien français, ce qui est tout à fait remarquable. Vous êtes dans cette longue lignée de Russes qui ont choisi la langue française, et on en est très très honoré. D'ailleurs, le style le style élevé, puissant, maîtrisé dans lequel vous écrivez, fait honneur à la langue française. Et ça, je tiens à le dire d'emblée, car ce livre, Au-delà des frontières, a une qualité littéraire absolument indéniable et qui est à la hauteur de vos œuvres précédentes, depuis le Testament français, qui vous a valu le prix Goncourt en 95. C'était déjà en 95, mais aussi le prix Goncourt. J'ajoute que c'était les lycéens l'avaient aussi signalé. Oui, oui. Ils l'avaient choisi aussi comme c'est un livre qui avait beaucoup plu à la jeunesse. Et puis vous aviez obtenu d'ailleurs le Médicis aussi, ou le Fémina, je ne sais plus, le Médicis, je crois, pour ce même roman. Ensuite, je ne vais pas faire la liste des prix que vous avez reçus pour votre œuvre littéraire, mais elle est déjà longue. Et alors, ce roman Au-delà des frontières est un roman dérangeant. Pourquoi ? Parce que vous vous affrontez à des problèmes très très contemporains, d'une façon qui pourrait presque paraître, si l'on restait un petit peu superficiel, un petit peu apocalyptique. Andrei Makine, est-ce que vous avez voulu, dans cet Au-delà des frontières, vous nous direz de quelle frontière il s'agit, mais nous donner un petit peu un parfum d'apocalypse, ou est-ce que cette apocalypse que vous effleurez, que vous évoquez, est-ce qu'elle n'est pas déjà au fond présente dans notre monde réel, y compris notre monde tranquille européen,
Mais est-ce que votre monde tranquille européen est si tranquille que ça? C'est la question qu'il faut se poser avec les attentats, avec les gilets jaunes, qu'on peut très bien comprendre, n'est-ce pas, dans leur révolte, même si on a souvent des réserves sur certains côtés de ce grand mouvement populaire. Je ne pense pas que le monde soit si tranquille. Nous venons de parler, enfin évoquer, quand vous avez parlé de votre voyage à Saint-Pétersbourg, nous avons évoqué ce fait très grave et en même temps qui a été servi par les médias un peu sur un mode très léger. Vous voyez, c'est M. Trump qui donc était en bisbille avec le président coréen, et donc il comparait leur bouton atomique, mais comme deux gamins dans une cour de récré, en disant « Mais non, j'ai un bouton plus gros, je vais vous démolir. » Et je me demandais, mais est-ce que ces deux messieurs comprennent de quoi ils parlent? L'arme atomique, le début de la guerre atomique, c'est la fin de cette terre. C'est tout simplement l'empoisonnement, la contamination de tout ce qui est vivant. Et donc, c'est ces deux dirigeants du monde, et surtout le dirigeant de la plus grande démocratie mondiale, donc les États-Unis, enfin, encore faut-il savoir s'il s'agit de la démocratie ou d'une démocrature, comme on dit aujourd'hui. Il faut se poser cette question. Et quand vous énoncez cela comme ça, de but en blanc, l'apocalypse, non, je ne suis pas l'oiseau de l'apocalypse, mais c'est vrai que les choses qui nous menacent aujourd'hui sont très graves. Je ne sais pas si vous avez lu, peut-être votre journal l'a repéré aussi, cette information, la fonte des glaciers, la fonte de la calotte polaire. Oui.
C'est un des titres, titres des journaux aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Ce qui est absolument effrayant. Mais la vie continue comme avant. Rien ne change, vous voyez, rien ne le remarque. On en parlera pendant une journée et demie. Tout le monde l'oubliera, comme la sortie des États-Unis de ce traité, qui était très bon d'ailleurs, le traité sur la réduction des armes atomiques de moyenne portée. Ça a retenu quand même, voyez-vous, ces deux forces, la force russe et la force américaine. Maintenant, elles sont parties. Qu'est-ce que ça nous promet? Et même au niveau beaucoup plus, comment vous dire, c'est pas à un niveau modeste, est-ce que le nom, par exemple, d'une ville anglaise vous dit quelque chose? Telford.
Dites-nous.
Telford, mais voyez-vous, cela est passé complètement inaperçu. Pendant des décennies, il y a eu dans cette ville anglaise des viols, des jeunes femmes, pas majeurs d'ailleurs, c'est-à-dire des gamines de 14, 15 ans. Et tout cela a été mis sous le tapis parce que ça a été perpétré par une sorte de mafia, de communauté indo-pakistanaise. Donc, ce sont des étrangers, il faut surtout des migrants, il ne faut pas en parler. Il y a eu un journaliste, une de vos confrères anglaise, qui a pu, elle a failli être jugée d'ailleurs, passer un jugement à cause de ça, elle en a parlé. On a appris qu'il y a eu 1000 femmes, plus de 1000 femmes, violées. Si ces gamines résistaient, on brûlait leur maison. On punissait, c'était des gamines, comment vous dire, appartenant à des familles ouvrières, un peu, des chômeurs, donc ce n'était pas des familles riches, vous voyez. Ce fait-là, Telford, et cela est passé dans la presse française, mais en tout petit caractère, quelque part, pendant quelques secondes.
Bon, vous êtes en train de nous dire, André Makine, que de toute façon, sous la tranquillité apparente, se déroulent des faits qui sont par nature terribles, voire terrifiants, au cœur de notre actualité. Votre roman prend ça à bras-le-corps. Quand je disais apocalypse, d'ailleurs, je ne pensais pas nécessairement à l'apocalypse nucléaire, mais aussi au sens de ce mot en grec, qui est le mot de révélation. Et à sa façon, votre livre nous conduit vers une forme de révélation. Alors, ce livre démarre, c'est un livre intéressant parce que plusieurs voix s'emboîtent les unes dans les autres. Il y a la voix d'un jeune homme qui rédige, qui est très très jeune et qui s'appelle Vivien et qui rédige une sorte de brûlot, alors apocalyptique pour le coup, sur la décadence de l'Occident. Et sa mère donc recueille, après la mort de cet enfant, sa mère recueille ce manuscrit et voudrait le faire éditer et rencontre le narrateur de ce livre. Et alors le narrateur, évidemment, vous me direz que pas d'André Makine, il s'agit d'un narrateur qui est l'auteur de ce livre, qui lui-même va se référer à un troisième personnage qui est un écrivain qui porte le nom d'un pseudonyme qui fut votre propre pseudonyme lors de précédents romans. Alors, tout ça pour dire que vous avez voulu dans ce livre un petit peu à la fois nous parler, démarrer sur cette prétendue décadence de l'Occident pour nous emmener quelque part et à travers plusieurs voix, plusieurs masques, nous faire comprendre certaines choses sur à la fois notre naissance biologique, notre naissance sociale et puis un au-delà dont toute la deuxième partie de ce livre nous parle. Expliquez-nous comment tout cela s'est enchaîné.
Oui, je ne parlerai pas de masques. Il y a des personnages. Vous savez, Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Il voyageait en Égypte avec son ami Maxime Ducamp. Et un jour, oui, cette exclamation a défini son statut dans le roman. Madame Bovary, c'est moi. Donc, je ne pourrais pas dire que tous ces personnages sont moi, mais ce sont des personnages dont chaque voix compte. Gaïa, la mère de Vivien Lenden, le narrateur, les amis de Vivien de Lenden. Donc, chaque voix, comme dans Madame Bovary, vous avez plusieurs personnages. Est-ce que Flaubert est vraiment Madame Bovary? Mais non, peut-être elle serait aussi un peu Rodolphe, ou peut-être ce jeune Léon. Quand Gustave Flaubert était jeune, peut-être il ressemblait plus à Léon. Donc, et ce ne sont pas des masques, ce sont des personnages qui instaurent cette polyphonie. Il y a plusieurs voix. C'est ce qui permet un roman. L'essai ne le permet pas. L'essai, j'ai écrit plusieurs essais où je disais à la première personne, voilà ce que je pense. Cette France qu'on oublie d'aimer, c'est exactement ça. Voilà ce que je pense de la France actuelle, de sa belle culture, de son passé et de la France actuelle. Donc là, ce n'est pas du tout... Je n'ai pas l'intention de me cacher parce que j'ai peur des idées de Lenden, puisque de toute façon, je signe ce roman. Donc, je suis pleinement responsable. Mais je suis responsable de ce que j'écris. Je ne suis pas responsable de ce qu'on comprend d'après ce roman. Donc, vous voyez, ce que j'écris, c'est vrai que ça peut perturber, mais à la limite, ce qui perturbe plus les journalistes, c'est leur propre peur. Ils sont tellement craintifs qu'en ouvrant ce livre, un de vos confrères m'a dit « Ah, votre livre m'a brûlé les doigts. » Je dis, cher ami, mais c'est pour ça qu'il faut écrire. Si on n'écrit pas des livres qui brûlent les doigts, ce n'est pas la peine d'écrire. Dans ce cas-là, on peut aller juste voir une petite comédie hilarante au cinéma et ça suffit.
Qu'est-ce qui, selon vous, d'ailleurs, a pu gêner ce confrère, à votre avis?
Je cite encore, vous voyez, un journaliste de la Provence, il a dit, c'est un roman scandaleux au sens noble du terme. Au sens noble du terme, Bernanos disait le scandale de la vérité. Mais la vérité gêne. Je vous donne un tout petit exemple. Je suis à la gare Montparnasse pour partir à Bordeaux tout à l'heure. Je vois deux couvertures. Elles étaient presque ensemble, comme ça, deux revues. À la Paris Match, donc, une jolie gondole tout en or, et on voit M. Sarkozy avec son épouse. Ils sont à Venise. Et à côté, il y avait donc la tragédie libyenne. Par hasard. Donc, un pays détruit sous la présidence de M. Sarkozy, et avec, bien sûr, son aval, et avec des résultats qu'on connaît aujourd'hui, ils sont devant nous. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est une réalité. Mais où est la vérité? La vérité, peut-être, quand même, de ce côté-là, l'historique de la destruction d'un État tout à fait viable, qui n'était pas du tout une démocratie, qui n'était pas du tout un paradis, mais qui tenait la route. Plus de la moitié des enfants tués avaient moins de 10 ans en Libye. Donc c'est un massacre d'enfants, de femmes, et maintenant l'anarchie totale où les femmes sont violées, où il y a des bandes rivales qui s'affrontent, à quoi bon? Pour cacher quelques millions qui ont été prêtés.
Alors toutes ces réalités-là, donc elles scandalisent ce jeune homme, cet homme très jeune qui a donc véritablement la pureté de ces d'idées extrêmes, mais au fond un regard peut-être très réel, plus réaliste que celui des adultes sur le monde dans lequel il est jeté. Et pourtant, cet enfant va se brûler les ailes puisqu'il va donc prendre la tête d'un petit groupe ultranationaliste qui va finalement imploser et il va mettre fin à ses jours en laissant derrière lui.
Ne racontez pas le contenu. Ça,
un manuscrit passionnant.
Les lecteurs le regrettent.
Mais je dirais que le véritable roman peut-être commence là. C'est peut-être là qu'il commence. C'est là peut-être là qu'on peut.
D'abord, excusez-moi, je vous coupe la parole. Mais cette partie-là, elle est aussi à double tranchant, parce que cet enfant, Vivien de Linden, qui lance ces idées qui peuvent paraître absolument monstrueuses, il prend aussi déjà dans le corps de son texte, il prend le contre-pied. Voulez-vous lire cette page où il devient beaucoup plus ironique? Où il montre le grand déplacement qu'il met en scène, c'est-à-dire le grand déplacement, toute l'élite française, les immigrés qui ne veulent pas s'assimiler, toutes les associations immigrationnistes, vos confrères, les journalistes, les députés, les sénateurs, les animateurs de télé, ils sont tous envoyés en Libye.
Une trentaine de millions de personnes quittent la France sur des bateaux.
Ils sont envoyés en Libye. Pourquoi? Parce que la Libye a été détruite. Et le coût de l'opération, c'est 2 milliards d'euros. Peut-être il aurait fallu les donner aux gilets jaunes, à augmenter un peu les salaires des infirmières, par exemple. Oui, mais enfin, bien sûr, c'est une proposition. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Libye maintenant, avec tout ce beau monde d'intellectuels, d'agents culturels, et ainsi de suite, l'élite, surtout parisienne, qui est renvoyée là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous lirez peut-être ça.
Vous avez un passage particulier que vous souhaitez que je lise?
Attendez, je vais donner, le retrouver.
Je vous lis parce que c'est... j'ai corné quelques pages, mais vous allez trouver la page qui vous intéresse. Oui, puisqu'il est beaucoup question de la Libye, c'est dans un écho un peu étouffé à l'actualité d'il y a
10 ans. Ça sent mieux avec votre voix.
Perdure.
Comme ça.
Le début, hein.
Oui.
Le début. Oui, non, tout à fait. Alors, l'ouvrage de ce garçon, ce manuscrit, s'appelle Le Grand Déplacement, qui en fait allusion à des thèses d'extrême droite, hein, sur la décadence. Hein. En Libye, le grand déplacement a fini par porter ses fruits après une période d'anarchie et de soubresauts politiques.
Plus lentement, sinon, même moi, je ne comprends pas.
C'est
l'énergie d'un journaliste.
Je ne savais pas que j'allais lire une page. C'est pour pas trop prendre votre temps de parole, cher ami.
Non.
Le grand déplacement a fini par porter ses fruits. Après une période d'anarchie et de soubresauts politiques, la paix s'est imposée dans une douceur de vivre méditerranéenne. Les exilés ont réussi leur reconversion. Un ancien ministre du budget, condamné en France pour corruption, a fondé une banque d'entraide agricole. Les cultures vivrières sont une priorité et ce domaine attire nombre de jeunes, surtout les intermittents du spectacle. À Benghazi, jadis détruite par l'OTAN, le gouvernement a ouvert une université où un penseur parisien a lu sa leçon inaugurale. Mon rôle dans la victoire des printemps arabes. Je ne cite personne. Siffler, l'homme a opté pour un sujet plus réaliste, la responsabilité des intellectuels dans les guerres humanitaires. Les politiciens, cette camarilla arrogante et improductive, ont découvert la joie d'un vrai travail, la relance de la voirie et des réseaux électriques, la production de biens de consommation courante, la construction de logements. Ils n'ont connu que deux défections. Un ancien Premier ministre et une ex-maire de Paris ont fui en direction de l'Espagne. capturés par une tribu Touareg, ils ont été libérés en échange de 3 bidons d'huile d'olive. Et la plasticité avec laquelle les destins se restauraient dans cette nouvelle Libye a encore produit un effet salutaire. Les deux fuyards ont créé un studio de cinéma et lancé une série picaresque, vite devenue culte, l'Auberge catalane. Bon, je pourrais poursuivre.
Oui, je pense.
Vous voulez que je poursuive?
On va comparer les deux voix.
La voix d'André Makin, lire ses pages.
On va comparer les deux voix, mais je préfère toujours que quelqu'un d'autre lise, parce que après mes lecteurs, ils se souviennent de mon accent et peut-être ça gêne leur lecture.
Bon, je ne crois pas.
Mais comme ça, sur vos brisés, je me permettrai, je serai moins intimidé. Les journalistes, oui, vous n'auriez pas pu lire ça.
Je ne me suis pas arrêté exprès.
Les journalistes, autrefois stipendiés pour répandre le nauséeux politiquement correct, sont parvenus à se régénérer. Le monde, rebaptisé Gloria Mundi, est devenu, à la stupéfaction générale, un excellent journal d'information. Ses collaborateurs en avaient les yeux exorbités, tant était grand l'ahurissement de ne plus faire de la propagande quotidienne. Libération, fidèle à son esprit 68 ans, poussivement espiègle, s'est trouvé un nom très cool, Libération. Quant à l'Obs, sa réussite a été encore plus éclatante. Le journal s'est scindé en deux. Un magazine érotique Obsession et une revue humoristique Oups. On a même vu un célèbre critique littéraire s'engager comme ébouilleur dans un hippodrome sur les rivages de Sirte. Comme les deux anciens présidents ont été expulsés, voilà ce qui leur arrive. Enfin, la métamorphose la plus époustouflante a rebattu les cartes dans la vie des deux ex-présidents. Leurs conjointes les avaient quittés, attirés par le cinéma. Deux rôles inoubliables dans l'Auberge catalane, danseuse du ventre au musical tripolitain. Les maris délaissés ont surmonté leur chagrin en épousant des femmes du cru, dont la volupté orientale a calmé les ambitions fébriles de ses perdants. Le premier a ouvert une horlogerie de Rolex et sa faconde est passée dans le folklore local. Vous voulez que je vous dise le prix de cette montre? Eh bien, je vais vous le dire, ce vrai prix. Le second, élu maire de Mourzouk, 12 000 habitants, a promis à ses administrés une gouvernance normale. Ses choix correspondaient exactement à l'envergure intellectuelle de l'un comme de l'autre. Oui, je vous ai évité, voyez-vous, cette lecture qui pourrait vous mal noter.
Donc, comme on peut le voir, l'aspect comique est tout à fait présent dans votre livre. Néanmoins, cette utopie est tout à fait réjouissante. Réjouissante, c'est peut-être un programme politique, je ne sais pas, mais ou peut-être une préfiguration de l'avenir d'une Europe qui va devoir se réinventer. Enfin, en attendant, comme la tonalité de votre livre est quand même beaucoup plus grave, hein, André.
Juste, encore une fois, excusez-moi de vous couper la parole, mais qu'est-ce qui s'est passé en Islande? En Islande, l'Islande, ce petit pays, croulé sous les dettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris justement cette élite et ils l'ont mis en prison. Les banquiers qui les ont ruinés, les banquiers escrocs, oui, pas de vrais professionnels. Ils ont changé la constitution, ils ont refusé de payer la dette. Maintenant, c'est l'épanouissement de ce pauvre petit pays qui était complètement au plus bas de son histoire.
Donc le modèle islandais pourrait nous inspirer. Bon, vous ne développez pas cet aspect-là. Alors par contre vous développez plusieurs thèmes qui s'entrecroisent. On a parlé de ce grand déplacement qui nous tenaille, parce que c'est une pensée qui nous vient parfois, celle de tout abattre, de tout bouleverser. Face aux menaces qui nous entourent, la menace migratoire qui est peut-être en partie fantasmée, mais qui est bien réelle néanmoins, la menace climatique, la menace d'un dérèglement total de l'économie, la menace nucléaire dont vous avez parlé, tout ça pèse évidemment sur la conscience des personnages, pèse sur le livre, pèse sur le narrateur. Alors quelle mesure peut-on imaginer une sortie, dans la mesure puisque le monde paraît si mal embarqué? Nous sommes face à un monde qui va mal, mais qui n'a pas de solution.
Oui. Le climat, les guerres que nous avons déjà évoquées, la démographie. Quand j'étais à l'école, j'étais un très jeune élève, on nous disait toujours, je me souviens très bien, vous savez, dans quelques années, l'humanité comptera 3 milliards d'habitants. Je ne sais pas si vieux que ça. Je pense que quand je quitterai ce monde trompeur, dans quelques années, on aura plutôt, 2050, 9 milliards d'habitants. Donc, en l'espace d'une vie humaine, la population de la Terre a triplé.
C'est ce que disait Claude Lévi-Strauss, d'ailleurs.
Lévi-Strauss le disait, c'était aussi troublant, parce que lui, il a vécu 102 ans. Vous voyez, en 102 ans, bon, on peut voir quand même les choses changer. Il disait, je suis venu dans ce monde qui comptait 1,5 milliard d'habitants, et je m'en vais quand le monde compte 6 milliards.
Donc 4 fois plus.
Donc c'est effrayant. Je ne sais pas si vous avez lu ce grand livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. C'est un grand amateur, c'est un grand amoureux de l'Afrique. Il a vécu la moitié de sa vie en Afrique. Donc on ne peut pas le... Enfin,
c'est un livre de l'année dernière. Hein,
voilà, il travaillait pour le monde et pour Libération, donc on ne peut pas dire que c'est un combattant du Front National. Non, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un de progressiste et de gauche. Et il dit très simplement que cette ruée va continuer, ne serait-ce qu'à cause de la population. Mais je cite ces chiffres-là, je ne connaissais pas les statistiques qu'il cite lui. Et c'est très simple, c'est-à-dire le début du siècle, c'est 100 millions d'habitants en Afrique. 100 millions d'habitants. Donc, bientôt, là, maintenant, il y a 1,5 milliard. Donc, en 2060, donc, c'est-à-dire les enfants, les jeunes qui sont devant nous, ils vivront tranquillement ce moment-là, ils seront encore là, il y aura 3 milliards. Donc, 100 millions, 3 milliards. Et je le dis dans le livre, Linden, vous voyez, il pense envoyer toute cette élite naïvement, un peu naïvement, en Libye, en disant, voilà, on va se débarrasser de tout ce qui perturbe cette belle, douce France qu'il idéalise, bien sûr. Et on va les envoyer et tout va être réglé. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'Afrique n'est pas si grande que ça. Vous enlevez le Sahara, vous enlevez le Sahel. Le Sahel, il est difficile de vivre. Il est difficile d'être nombreux. Disons, on peut vivre, mais il est difficile d'avoir 1 milliard d'habitants dans le Sahel. Vous enlevez la Kalahari, le grand désert, donc il reste finalement pas si grande surface en Afrique.
Beaucoup moins qu'en Russie, Andriy Makine.
En Russie, vous pouvez remplacer le Sahara par la Sibérie, et par le Grand Nord, où il est impossible de vivre nombreux, exactement comme en Afrique. Seulement, ce n'est pas la chaleur, c'est un froid extrême. Quand il fait moins 60, voyez-vous, et quand la glaciation était totale, et quand surtout le permafrost, on dit que la Russie est énorme, mais les terres sont gelées. Vous ne pouvez pas labourer, avoir des récoltes comme en France. Les agriculteurs français se plaignent toujours. S'ils essayaient de vivre là-bas, ça serait autre chose. Et donc, on a parlé de la guerre, on a parlé des changements climatiques, de la démographie qui est absolument démentielle. Tout cela fait que, c'est vrai, le bateau dans lequel nous sommes est très fragile.
Il y a un côté Arche de Noé donc, dans ce livre. Comment faire pour donc, mener notre petit esquif sur cette mer de plus en plus déchaînée, finalement. Alors, il y a toutes ces notions qui traversent le livre de la naissance, de la première naissance, de la deuxième naissance, de la troisième naissance. Alors, vous nous présentez un théoricien qui est un théoricien, je présume, sorti de votre imagination, mais qui pourrait
qui existe avoir... véritablement, mais dont j'ai changé le nom.
Voilà, oui. Et qui donc, voilà, qui donc a, dont vous développez la théorie qui s'appelle l'alternaissance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que il y a la naissance, c'est celle que nous avons tous eue, puis il y a cette naissance sociale qui est notre arrivée à l'âge adulte avec nos succès ou nos échecs sociaux. Et puis alors, il y a autre chose qui est cette alternaissance que vous développez. Comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que vous mettez derrière?
D'abord, pourquoi ce Linden, ce jeune Linden, exprime ses idées dans une forme aussi extrême, oui, qui choque même tous vos collègues et tous vos confrères journalistes? Mais parce que pour dépasser, il faut passer par. Et donc, dans sa tête, il faut absolument exprimer, dire la vérité, crier sa vérité. Et donc, il crie cette vérité, il va jusqu'au bout de ses idées, autant que sa mère, Gaïa de Linden, qui, tout à fait à l'opposé de son fils, c'est une femme qui a toujours voulu être l'incarnation de tout ce qui est, disons, politiquement correct. Elle était militante pro-immigration, elle était une journaliste engagée, elle était aussi une activiste sociétale. Donc, il a traversé tout cela. Oui, il est allé, je ne sais pas, ne serait-ce qu'en Libye, on y revient, pour faire transborder ces cargaisons de migrants vers l'Europe. Donc, il y croyait vraiment. Les deux expriment finalement deux conceptions inconciliables. Et les deux arrivent à la conclusion qui peut paraître très pessimiste, mais en même temps qui est une sorte d'ouverture vers autre chose. C'est qu'il faut changer l'homme. Tant qu'on n'a pas changé l'homme, qui est ce prédateur, oui, qui écrase les pauvres, qui vit dans la hantise de l'accumulation, on ne changera rien. On peut faire n'importe quelle réforme, on ne changera pas la nature humaine. Et vous l'avez très bien évoqué, et là, je vois que vous devenez aussi théoricien de ces trois naissances, parce que vous l'avez très bien expliqué. Nous naissons dans un corps que nous ne choisissons pas. Ce corps, vous voyez, vous êtes né homme comme moi, on aurait pu être femme, ça dépend de toutes petites choses endocriniennes, vous voyez, qui... Au moment, je pense que c'est la sixième semaine de grossesse où tout à coup tout bascule. On devient homme ou femme. Au début, on est un être indistinct pendant les premières six semaines. Et puis finalement, vous savez, une toute petite molécule qui se dépose quelque part et on choisit son sexe. Donc on est, vous voyez, dans notre enveloppe terrestre. On peut être beau, on peut être laid, on peut être petit, on peut être grand. Et de toute façon, on ne vivra que 30 000 jours. C'est donc notre
il y avait un livre de Maurice Genevoix qui s'appelait 30 000 jours. Qui
oui, parlait
de
oui.
Sa, mais même moi, à raconter limite, sa vie.
Même ouais. Moi, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est vraiment une poignée de jours? Parce que quand on se rend compte de cette brièveté, c'est qu'on a déjà vécu beaucoup. Les jeunes, ils s'en fichent, ils s'en moquent. Vous voyez, la brièveté, ils n'y pensent pas. Ils pensent qu'ils sont éternels. Et vous pouvez faire cet essai avec vos amis. Qu'on aurait pu faire d'ailleurs avant que je découvre cette brièveté exprimée en jours, mais faites cette expérience, vous verrez que ça marche à tous les coups. Vous donnez à vos amis trois chiffres sans leur expliquer de quoi il s'agit. 100 000, 1 million, 5 millions. Et puis vous dites, sans réfléchir, intuitivement, sans calculer, vous me dites tout de suite combien de jours fait notre vie. D'habitude, les gens disent 5 millions. Et parfois, ils disent, mais non, pas 5 millions, 10 millions. Certains qui ont un calcul mental très rapide disent « Oh non, non, ça serait plutôt un demi-million ». Personne ne vous répondra que c'est une poignée de jours qui fait plutôt 20 000 jours, entre 20 000 et 30 000 jours. Donc, l'homme, c'est quelqu'un de parfaitement fini.
Ça nous donne envie de faire un calcul mental rapide, là, chacun oui. d'entre nous.
Oui.
Multiplions par 365.
Mais c'est vrai que ça choque, reconnaissez-le. Reconnaissez-le parce que quand c'est exprimé en année, on ne le comprend pas. Quand c'est exprimé en jour, on est saisi d'effroi. Et donc, c'est le premier pas vers la lumière. C'est-à-dire, on se dit, mais c'est vrai que ça ne peut pas être aussi bête. Quelqu'un qui a conçu cette vie ne peut pas être un idiot complet, qu'on l'appelle Dieu ou le grand tout, etc. Il y a sans doute une ouverture que je ne connais pas. Je ne peux pas être né ici-bas juste pour cette poignée de jours, pour me reproduire et finalement les enfants, les lancer dans le même monde cruel, atroce, absurde, ça serait trop bête. Quand vous pensez à cet être très fini, il est aussi incomplet, il est animé de désir, il est frustré tout le temps. Oui, pourquoi je suis comme ça et pas comme ça? Quel est mon statut social et pourquoi ne serais-je pas un peu plus, n'occuperais-je pas un statut plus élevé? Pourquoi je gagne seulement, je ne sais pas, 3 000 euros par mois, puisque Carlos Ghosn gagne un million et quelques. Oui, on vit dans ce monde où la concurrence d'image. Oui, il y a des hommes qui réussissent, dixit notre cher président, il y a des hommes qui sont rien. Attendez, mais je rêve. Comment ça, notre frère humain est un rien? Ça paraît invraisemblable. Mais dans sa grille de lecture, c'est tout à fait vraisemblable. Il y a des gens qu'on peut écarter parce qu'ils sont rien, ils n'ont pas réussi.
Alors ce que vous proposez, enfin ce que l'on propose, ce qui est proposé dans le livre, c'est de passer par une machine qui va vous aider à faire de façon accélérée, l'expérience à la fois de revivre vos propres expériences, mais aussi de peut-être de vivre ce que vous auriez voulu vivre et que vous ne vivrez pas, mais de le faire de façon accélérée pour pouvoir finalement mettre de côté ce qui vous semble des illusions, c'est-à-dire des choses inutiles peut-être, ou en tout cas des expériences qui tant qu'on ne les a pas faites, nous paralysent. Alors ça s'appelle, où est-ce que vous avez trouvé cette machine?
La métapraxie.
La pratique,
c'est-à-dire vous traversez quelque chose. Cette machine, comme je le disais dans mon roman précédent, l'alternescence, cette machine va devenir un jour un gadget, parce que vous savez, notre économie est ainsi faite que dès qu'elle s'empare d'une idée intéressante, tout de suite, il la gadgetise en quelque sorte, ça devient un gadget, et la fameuse réalité, la réalité positive, en plus, déjà ça, c'est-à-dire on met un casque et grâce aux visions positives, grâce à la musique positive, on est dans une bulle où tout à coup l'homme peut respirer, il se sent un peu meilleur, il se sent détaché de ce bas monde. Mais la métapraxie, c'est beaucoup plus intéressant parce que la métapraxie existait déjà, elle a été conçue par les physiciens neuropsychologues des Diggers, de cette communauté des Diggers.
Et dont nous allons parler.
C'est une transmission transcrânienne, enfin c'est une activation transcrânienne des zones, parce que notre cerveau est déjà complètement localisé. Je sais à peu près où se situe le langage, n'est-ce pas? C'est l'air de Broca, on le sait très bien, le langage c'est ça. Dans quel hémisphère se situent les zones qui sont responsables des sentiments, de la rationalité, etc. Maintenant, grâce à la tomographie, grâce aux images de synthèse sur l'ordinateur, quand vous rêvez, je peux deviner ce que vous rêvez. Quand vous pensez, je peux, grosso modo, je ne dirais pas, vous pensez à un tel article dans Sud-Ouest que vous devriez absolument écrire. Ça, je ne le devinerai jamais.
Mais vous voyez des intensités, des
je intensités. Je vois l'intensité, donc c'est à peu près.
Les zones qui deviennent plus rouges, des zones plus intenses.
Oui, en influençant là-dessus, vous pouvez revivre, c'est-à-dire influençant le centre qui, par exemple, est responsable de vos affects, positifs ou négatifs, de votre libido, bien vécu ou mal vécu. Donc, l'homme devient, vous allez dire, c'est une manipulation cérébrale, c'est un peu ça, mais pour la bonne cause. En quelques minutes, la séance dure 12 minutes, vous pouvez revivre, je ne sais pas, le destin, par exemple, de Narcisse, être quelqu'un de très riche. On parlait de 40 secondes, pourquoi pas, vous voyez, revivre son ascension absolument faramineuse, et puis sa chute. Vous pouvez tout revivre, vous pouvez revivre un souvenir. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui est responsable dans notre cerveau des souvenirs profonds ou de souvenirs très actifs aujourd'hui. Donc, grâce à pianotage électronique, vous pouvez revivre plein de destins, échanger de destins.
Dans quel but? C'est ça.
Le but est très simple. C'est que, comme je vous ai dit, l'homme, c'est un être incomplet. Quelque chose nous manque toujours. Toujours. Vous voyez, le désir, c'est ça. Spinoza disait, le désir, c'est l'essence de l'homme. Ou bien il faut être un bouddhiste, mais c'est très rare. Un bouddhiste, sans doute, il est quand même taraudé de temps en temps par certains désirs. Même un bouddhiste, même un moine, la tentation de Saint-Antoine, c'était un peu ça, n'est-ce pas? On peut fuir dans le désert, mais au lieu de Jésus-Christ, du Christ, de Dieu, il rencontrait le diable. Le diable est très proche.
On ne peut pas atteindre l'ataraxie.
L'ataraxie, c'est très difficile à l'atteindre. Le nirvana et l'ataraxie. Pour moi, ce sont plutôt des inventaires, quand même, des inventions un peu légères.
Et donc ?
Mais quand vous avez accumulé cette expérience très rapide, vous commencez à sentir un certain détachement, pour une raison très simple. C'est que la métapraxie, comme je la décris dans ce livre, elle vous permet de ressentir ces sentiments, mais puissance 10. Et il y a même dans ce dispositif électronique, il y a même un petit interrupteur, parce que tout le monde, on est
demi-conscient. On ne peut pas supporter.
On ne peut pas supporter, les affects sont très, 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 très violents. Mais l'homme, qui est toujours insatisfait, ne serait-ce que sexuellement, n'est-ce pas? On aimerait aimer, ou avoir aimé toutes les femmes du monde, n'est-ce pas? Une femme voudrait sans doute être maîtresse des plus beaux comédiens du cinéma.
Enfin, j'exagère
à peine, mais en tout cas, si on est vraiment honnête avec nous, on pourrait imaginer cela, imaginer cette pensée qui est profondément ancrée. Et combien de ratages, combien de femmes ou d'hommes que vous avez croisés dans la vie en vous disant « mais ça aurait pu être quelque chose de sublime ». Non, ça ne s'est pas passé parce que les événements vous ont interdit cela. Et donc la métapraxie, c'est un peu le rattrapage de tout ce que vous auriez pu vivre.
Mais en fait, dans votre esprit, c'est plutôt pour mettre ces choses-là derrière vous, pour pouvoir passer à autre chose, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le livre s'appelle Au-delà des frontières. Oui. Donc la métapraxis vous permet finalement de réaliser des choses que vous n'auriez jamais réalisées, en tout cas d'en avoir l'impression. Mais l'objectif, c'est pas de posséder là pour le coup. L'objectif, il est tout autre.
Alors, je vous poserai une question. Pardon, dites-moi. Je vous coupe les paroles. Mais est-ce que sur cette table, vous voyez un instrument de métapraxie ?
Un instrument de métapraxie ? Ici. Un livre, peut-être ?
Mais les livres. C'est une forme très simple, mais très efficace de métapraxie. Quand vous lisez un livre, pourquoi vous rougissez de temps en temps ? Pourquoi vous pleurez ? Pourquoi votre cœur s'arrête ? Mais parce que vous revivez. Et vous revivez, à la limite, mieux que l'écrivain. L'écrivain suggère les choses, n'est-ce pas ? Mais vous arrivez avec vos intuitions. Votre âme à nu. Et vous lisez, et vous êtes parfois remué plus que l'écrivain qui a imaginé tout ça. Donc le livre, c'est déjà la métapraxie. Le film, ça peut être aussi la métapraxie. Vous revivez quelque chose. C'est la fameuse catharsis.
C'est une cabine sensorielle, le livre. Hein,
ça peut être ça. Oui. Pourquoi vous relisez les livres ? Vous savez, le philosophe Kant, qui était une sorte un homme plus sec, il est difficile d'imaginer. Vous savez, il sortait à 4 heures, et tout le monde pouvait vérifier sa montre grâce à la sortie. Il allait se promener à 4 heures. Donc, c'était quelqu'un de très rationnel. Et pourtant, même lui, il disait, mais pourquoi, quand j'ai lu un essai philosophique, je l'ai lu une fois, ça me suffit. Mais pourquoi un poème, je dois le lire et relire ? Mais parce que c'est une forme de métapraxie poétique, parce que dans un livre, vous devenez ce personnage. Une femme qui lit attentivement ce livre, elle se sentira Gaïa, cette femme de 52 ans, qui tout à coup est...
Alors vous n'êtes pas très sympa avec Gaïa, parce que vous... Oui. Donc Gaïa est le seul personnage de ce roman qui va passer à la métapraxis, dont on va suivre l'expérience, mais la première fois qu'elle passe dans la cabine, vous oubliez de lui donner le petit bip
qui
va lui permettre d'interrompre la chose.
Laissons les lecteurs découvrir. Là, vous parlez de Gaïa, et là vous avez raison, parce que là finalement le vrai sujet de ce livre, c'est cette femme qui a dépassé la cinquantaine et qui est au bord du suicide, qui était donc
raconter des choses là
qui était assez oui, mais attendez, je n'irai pas plus loin, et qui est au bord du suicide, mais qui a donc vécu une vie bien remplie. C'est-à-dire, oui, elle était votre consoeur journaliste, avec des sujets, bien sûr, très à la mode. Elle était une militante pro-migrant. Elle était donc une combattante sociétale. Elle a vécu tout ça. Et tout à coup, un vide. Elle comprend que, finalement, tout cela était faux. C'était de l'imposture. Et le sujet du livre, c'est le sauvetage de cette femme. L'homme qui la rencontre, qui l'aime, il se pose cette question, avec toutes mes théories philosophiques. Comment je pourrais la sauver, cette femme qui vacille au bord de la suicide et qui le dit d'ailleurs très clairement, mais pourquoi continuer à faire vivre cette femme que je déteste en moi, je déteste cette femme, je ne la supporte plus. Et la métapraxie, ça sera une des étapes de cette quête, mais une étape, comme vous le dites très bien, utilitaire, mais pas du tout définitive.
Alors vous nous présentez des gens dans ce livre qui s'appellent des diggers, alors to dig en anglais, creuser, donc des creuseurs, des gens qui creusent, alors qui creusent pas des trous, mais qui creusent qui installent plutôt des communautés, des groupes qui sont alors quel est ces diggers d'abord, quel est où est-ce que vous avez trouvé leurs traces, dans quelle réalité les avez-vous rencontrés, et pourquoi voulez-vous diriger les héros de ce livre vers ces personnes-là, est-ce qu'ils représentent pour vous l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire cette faculté qu'il y aurait en chacun de nous d'aller recréer le monde ailleurs, à sa racine, avec des petits groupes de personnes, comme on a pu le faire peut-être, il y a à l'époque d'Homo erectus ou du néolithique, c'est-à-dire.
Mais avec notre cerveau d'aujourd'hui.
Avec le cerveau d'aujourd'hui. Oui, oui. Parlez-nous de ces diggers dans notre monde d'aujourd'hui. Qui sont-ils?
Tout digue, c'est creuser, comme vous dites, mais creuser au-delà des mensonges de la société. Nous vivons entourés de ces mensonges médiatiques, de ces mensonges personnels, de mensonges de notre être. Nous jouons avec notre être, nous nous cachons justement l'abri, ne serait-ce que la brièveté de sa vie, nous jouons avec les désirs, avec nos frustrations. Donc, c'est un monde rempli de mensonges. Et ils disent, mais attendez, est-ce qu'on peut vivre en creusant en dehors, c'est-à-dire en trouvant le vrai sens de la vie, de cette existence, au-delà de ces deux premières naissances qui sont fallacieuses, vous voyez, notre corps, qui est une fatalité, ça vous est tombé comme cela. Et le vieillissement de ce corps, c'est une fatalité aussi, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Et le statut social, parfois c'est un statut brillant, sans doute, être un journaliste vedette à Sud-Ouest,
ou un académicien français.
C'est beaucoup plus brillant. Non, c'est, à la limite, du point de vue médiatique, c'est beaucoup plus brillant qu'un académicien. Plus brillant. Et, bien sûr, je plaisante, mais...
Je
plaisante sur une chose, non pas sur nos brillances réciproques, mais de toute façon, quel que soit le statut, c'est très éphémère, très éphémère. Je donne quelques exemples. Vous voyez, il y a Dominique Strauss-Kahn qui apparaît, il y a Onassis qui apparaît, il y a Madoff. Vous voyez, c'est des personnages.
Oui, vous avez d'ailleurs des pages assez étonnantes sur Bernard Madoff, bon, qui est quand même le symbole évidemment du diable, qui a appauvri tant de gens avec une magouille absolument affreuse, qui prend 150 ans de prison. Donc vous y voyez quand même un espèce d'humour noir de la justice américaine. Oui. Mais finalement, il y a des pages assez à laudatives sur Madoff. Pour quelle raison?
Non, comprenons-nous bien. Oui. Du point de vue moral, bien sûr, je ne le défends pas.
Oui,
d'une certaine façon,
vous le défendez.
Oui, l'écrivain, il s'intéresse non pas aux petits bobos parisiens, il s'intéresse aux monstres. Les monstres,
enfin, le bobo parisien, il existe aussi. Mais bon.
Oui, bien sûr, mais enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Vous savez, quand vous voyez les romans qui sont publiés là, c'est surtout là-dessus. C'est une femme qui habite dans le 6e arrondissement, qui rencontre un homme qui habite dans le 16e arrondissement, il s'aime ou ne s'aime pas, et puis voilà. Ouais. C'est un tout petit roman qui se lit en quelques heures et qui n'apporte, à mon avis, rien. Mais les monstres qui interviennent comme ça et qui ont investi toute leur vie, justement, cette vie, c'est 30 000 ou 20 000 jours dans quelque chose de phénoménal, d'absurde, l'enrichissement jusqu'au sommet de l'absurdité.
Mais sous forme d'un jeu,
justement, je les appelle des joueurs ontologiques. Ils jouent devant nous, un peu comme dans la métapraxie. Ce sont des personnages métapraxiques. C'est-à-dire, si vous voulez regarder un destin, vous regardez Madoff, vous regardez Strauss-Kahn, vous regardez Onassis et vous dites, mais non, c'est pas la peine de vivre cette vie. C'est complètement absurde. Se retrouver sur une île déserte comme Onassis, perdre son fils dans un accident, perdre sa fille qui, bon, elle se droguait, donc elle est morte à 36 ans, je pense, et qu'il adorait, cette fille, d'une overdose. Sa femme est morte bien avant. Il est seul avec un chien bâtard. Il a une maladie dégénérative, donc ses yeux se ferment. Il doit scotcher ses paupières pour voir. Une vie horrible. Et c'est ce même Onassis dit dans ce roman, mais un jour, en Macédoine, j'ai rencontré une femme qui grillait juste dans un brasero, elle grillait les sardines. Et cet instant est toujours en moi. Et cet instant, c'est mon éternité. Je suis encore dans cet instant. Donc, il a vécu le sommet, et pour dire à la fin, mais finalement, ma seule vérité, c'est juste cet élan d'amour pour cette femme.
Ils ne sont c'est le jour où j'ai vu cette poissonnière sous la pluie, dans sa robe noire.
Sous la pluie, et j'entendais le bruit de la mer, sous la pluie, voilà. Et tout à coup, et si vous êtes parfaitement sincère avec vous, vous reconnaîtrez que finalement, ce n'est pas les grands souvenirs, nos grands succès, grands journalistes, grands académiciens, ce n'est pas ça qui compte dans la vie, n'est-ce pas? Ce qui compte, ce sont ces instants qui sont suspendus en nous, auxquels on revient, on dit, mais ma vérité personnelle, elle est là, elle est dans cet instant.
Alors effectivement, la dernière partie du livre, puisque vous nous emmenez à travers à travers ces différentes étapes, sous beaucoup très dures, avec Gaïa, avec Vivien, avec Gabriel Osmonde, qui est cet écrivain, qui est un peu un témoin et un maître à penser, enfin, donc, qui joue un rôle important dans l'économie du roman. À travers ces différentes étapes, finalement, vous nous emmenez vers cette frontière, on l'approche, et puis on saute, on va la franchir, on s'arrête, puis on va la franchir, on va réussir à voir au-delà. Alors, il y a des pages très belles où, finalement, ce qu'on ressent, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la valeur de l'instant. Hein, c'est la valeur de ces instants suspendus, d'une goutte qui coule sur une feuille, d'un petit matin, des pas dans la neige, d'un peu de vent dans des branchages.
Difficile à en parler. Vous sentez. Et pourtant, vous m'avez dit que vous avez adoré ces derniers chapitres. Et là, chapeau, parce que les journalistes d'habitude, enfin les journalistes que je vois, ils lisent à peu près. Vous voyez cette partie qui leur brûle les doigts, vous voyez, qui est scandaleuse dans sa vérité, et ils s'arrêtent. Ils ne vont pas jusqu'au bout comme vous, parce que c'est la fin qui est... C'est là le vrai franchissement ontologique, philosophique, existentiel, c'est dans ces derniers chapitres, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire qu'on revient à l'apocalypse du début, c'est-à-dire que là, à un moment donné, vous essayez d'écarter le rideau, alors vous vous emmenez... Je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre ombre, votre narrateur, celui dont vous rêvez. En tout cas, vous emmenez cette femme. Alors, c'est pudique d'ailleurs, puisque vous emmenez cette femme. On devine la relation qui les unit, mais sans qu'elle soit réellement dévoilée. Au fond, ce qui les réunit, c'est bien ça. C'est bien de pouvoir ensemble s'approcher de cette frontière. Alors, parviennent-ils réellement à la franchir? C'est un peu la question que l'on se pose.
Oui, et il commence même à faire des premiers pas. Vous voyez, la lecture de ce premier livre, c'est le premier pas sur cette voie de l'alternescence. Il suffit de la lire et vous avez fait déjà ce premier pas. Quand vous parlez de Diggers, vous dites, mais oui, mais c'est une communauté, où est-elle? Je les ai rencontrés au Tibet, je les ai rencontrés en Australie, et même, il y avait une toute petite cellule au Pakistan, ce qui n'est pas très facile, vous voyez. Et donc, ces communautés existaient vraiment, mais ça n'a jamais été des sectes, oui. C'est quelque chose de très ouvert, oui. Vous pouvez rester un peu...
Vous parlez de communauté.
Communauté, un peu comme un
ashram. Tout petit,
disons,
petit.
Un ashram, oui.
Et de petit, de ça petit. Petit.
Mais comme je le dis dans le roman, chacun peut être sa communauté à lui. C'est ça qui est plus intéressant avec cette philosophie, c'est qu'on n'est pas obligé de créer une nouvelle religion. Vous avez saisi même un petit, comment vous dire, un petit parfum, non pas irreligieux, mais en tout cas... extra-religieux, c'est-à-dire la religion, relégare en latin, relier, n'est-ce pas? Il faut nous relier. Mais ce qui me relie à vous et à mes lecteurs, c'est justement notre brièveté ici-bas. C'est que nous sommes tellement brefs, ce qui nous rend fraternels. Et chacun, le regard de chacun peut nous sauver. Pourquoi? Parce que le regard d'autrui, qui ne connaît pas les misères de notre existence, il nous soulève. Il nous soulève, vous voyez, je vous ai parlé, vous voyez, le journalisme, etc. Bien sûr, c'était sur un mot de taquin, pour une raison très simple, c'est que vous n'êtes pas ni votre première naissance, ni votre deuxième. Si vous vous conformez à la première naissance, si vous vous conformiez à la première naissance, vous ne seriez jamais venu ici avec ce livre-là. C'est évident, parce que vous n'auriez pas besoin de cette lecture.
Et si je vous dis qu'en écrivant ce livre, vous aviez l'objectif de nous proposer une démarche spirituelle, est-ce que...
Existentielle, plutôt.
Existentielle,
parce que spirituel, moi, je ne suis pas spiritualiste. J'aime toucher les choses, vous voyez. Il faut quelque chose de charnel. Leur voix est très charnelle, vous voyez. La religion nous promet souvent beaucoup, elle nous promet après notre mort. Mais ici-bas, attendez. Qu'est-ce qu'on fait ici-bas? On attend, on souffre, et qui nous dit qu'après notre mort, on vivra quelque chose qui nous libère complètement? Est-ce que le paradis chrétien a jamais été bien décrit? Qui pourrait mieux décrire le paradis chrétien? Ou le paradis d'une autre religion? Dans l'islam, nous avons 70 vierges. Oui, 70 vierges qui sont... proposé à un homme, mais une femme, ils ont oublié. L'homme est très bien loti avec ce harem de 70 vierges. Oui, mais une femme, bon, ce n'est pas important. Sans doute, elle deviendra une domestique de cet homme. C'est assez comique, n'est-ce pas, d'oublier quand même la moitié, plus de la moitié de la population. Mais le paradis chrétien, qu'est-ce que ça nous propose? La musique des anges, les chants des anges, des prairies verdoyantes, Oui, c'est très beau, mais au-delà. Et puis, rester comme cela, jusqu'où? Vous allez me dire, mais le temps n'existera plus, donc c'est l'éternité. Mais nous sommes des êtres temporels. Bon. Donc, comment expliquer cette...
Cela dit, le Christ et les pères de l'Église nous disent que le royaume est déjà commencé. Hein. Voilà, donc on est en les diggers.
Le royaume est déjà en nous, oui.
Le royaume est déjà commencé, le royaume est déjà là. Donc on a quand même l'impression, en vous disant, André Makin, que quelque part, on entend, on touche là les frémissements de ce qu'est le royaume. Je ne sais pas comment vous l'imaginez.
Pourquoi je ne voudrais pas définir maintenant l'alternescence? Parce que d'abord, c'est quand même 260 pages où je le définis. Donc faire ça, faire un petit raccourci dans 5 secondes, à 5 minutes, ça ne sert à rien. Je pense qu'il s'agit de la voix. Si vous allez chez un médecin et vous dites, écoutez, je me sens mal, il va vous ausculter, n'est-ce pas? Il ne vous dira pas, écoutez, si vous vous sentez mal, prenez juste ce comprimé. Non, ce comprimé n'existe pas, n'est-ce pas? Il va essayer de vous ausculter. Le livre, c'est la meilleure façon de se faire ausculter. En choisissant cette voie, vous le choisissez avec votre intériorité. Et il ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, vous voyez, lira les premières pages, il sera effrayé par ce brûlot, il le rejettera, ce livre. Il le reconnaîtra peut-être un jour. Mais faire cette voie, la foi est très subjective, la foi est personnelle. On ne peut pas donner des recettes pour chacun. Oui, comme si je vous disais, mais écoutez, pour être un bon sportif, ne fumez pas. C'est évident, n'est-ce pas, ces conseils-là. Et si vous demandez un conseil à un vieux sage, il va essayer de connaître votre vie, n'est-ce pas, avant. Êtes-vous jeune? Êtes-vous désespéré? Regrettez-vous ceci ou cela dans votre vie? Il doit quand même vous comprendre. Le livre, comme c'est un dialogue quand même, c'est toujours un dialogue. Vous, en lisant, vous dialoguez, vous avez lu cet extrait d'une voix à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ni la cadence, ni le dynamisme, vous voyez, je l'ai lu différemment, vous voyez, avec ma cadence à moi.
Je ne vous aurais pas lu de la même façon les pages de la fin.
Oui, 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 non. voilà, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avancez à votre manière, vous avancez à votre cadence. Il ne faut jamais brusquer cette cadence. C'est quelque chose de très, comment vous dire, de très intime. Et moi... ça me gênerait beaucoup si je vous disais maintenant, écoutez, alternescence, c'est 1, 2, 3, comme ça je vais vous expliquer, et c'est la seule lecture possible, c'est tout. Non, je n'impose aucune lecture. La lecture, c'est à vous de la découvrir, de découvrir quelque chose qui dépasse votre première et deuxième naissance, c'est-à-dire votre biologie, grosso modo, et votre sociologie. Posez cette question, juste cette question. Est-ce qu'il y a en moi une matière, une substance qui n'est pas réduite à ces deux naissances? Est-ce que quelque chose, vous voyez, bon, voilà mon statut social, voilà mon âge, voilà ma position biologique, voilà mon ressenti biologique, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à moi? Bien sûr, les prêtres vont dire, mais bien sûr, ton âme, mon fils, ton âme, oui, mais ça, c'est un peu facile, l'âme. L'âme, on ne la touche pas, où est-elle? Tandis que cette question-là, est-ce qu'il y a cette substance qui dépasse ces deux naissances-là, Onassis aurait dit, mais oui, c'est cet instant dans le Monténégro, au bord de la mer, et cette femme qui apparaît, qui n'est pas jeune, qui n'est pas jolie, et qui, tout à coup, c'est une révélation, comme vous dites, l'Apocalypse, c'est une révélation, mais pas au sens tragique du terme. Pour lui qui a aimé les plus belles femmes du monde, Jackie Kennedy, n'est-ce pas, la fameuse Callas, et tout à coup, il dit, mais finalement, j'ai raté ma vie. C'est cette femme-là que j'aurais aimé
aimer
et rencontrer.
Mais ce qui m'a semblé quand même très net dans le livre, c'est que vous avez parlé de la première, de la deuxième naissance et de l'alternescence. Il m'a semblé voir entendre trois rythmes différents dans le livre. Un rythme un peu plus frénétique au début, un rythme un peu plus apaisé dans la partie centrale, et puis un rythme alors ralenti et très méditatif dans la dernière.
Il y a un franchissement, ce qu'on appelle.
Je ne sais pas si vous l'avez recherché ou si ce rythme s'est imposé à vous ou si je me trompe. Hein.
C'est les deux. On cherche l'expression stylistique d'une idée. Mais l'idée, elle sculpte le style aussi. Vous voyez, le fond et le contenu, c'est un couple inséparable.
Et ce Gabriel Osmonde, qui est un petit peu l'ombre qui plane sur tout le livre avant d'apparaître, vous teniez à ce qu'il soit présent.
C'est un personnage intéressant. C'est un personnage pour moi qui exprime quelque chose de très brut de la vie, voyez-vous. Il ne s'accommode pas avec des faux fuyants, avec des non-dits. Quand il regarde la télévision, les lecteurs sans doute vont reconnaître tous ces personnages politiques qui apparaissent. Il dit ses sentiments tranquillement, mais quand il voit une femme, une belle femme à la télévision, il dit, mais il se perd dans ces petits jeux politiciens. Dans sa tête, c'est toujours l'idée d'un salut. Comment pourrais-je indiquer à cette femme une autre voie dans cette vie? Elle dit, mais voilà, elle a peut-être 40 ans, il lui reste un poignet de jours à vivre, quelques milliers de jours à vivre, et il va continuer jusqu'à sa mort, jusqu'à la retraite, à jouer cette comédie politicienne. Ce qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était un des gilets jaunes. Là, on est en pleine actualité. On lui tend le micro, et il dit, en lui demandant, mais enfin, vous avez eu un petit surplus de salaire maintenant. Et lui répond, mais attendez, oui, on a augmenté nos salaires, mais mon existence, je vais travailler jusqu'à 67 ans, puis je me mettrai devant l'écran d'un téléviseur et je vais attendre ma mort. Et vous voyez, c'était dit avec une simplicité terrible, avec cette angoisse qui habite. Donc je pense que c'est ce conflit. Et cette révolte, elle n'est pas seulement financière ou matérialiste, non. Il y a quelque chose d'existentiel dans cette révolte. Donnez-nous un sens. Et notre société, notre civilisation aujourd'hui, elle ne produit pas ce sens.
C'est sans doute pas l'État qui peut nous aider à donner...
Les penseurs, et puis pourquoi pas l'État. Vous aviez encore, récemment, vous aviez des présidents penseurs. Vous voyez, prenez De Gaulle, c'était un grand écrivain.
Enfin, si je reviens à votre livre, c'est l'effort doit venir de l'individu, l'effort doit venir de chacun d'entre nous. Personne ne fera l'effort à notre place, ou en tout cas... On trouvera sur notre route peut-être quelqu'un qui nous assistera, qui nous aidera à faire ce passage. Mais l'effort, l'initiative, l'effort est un effort individuel qui ensuite peut s'alimenter à des communautés, des petites communautés, pensez-vous, hein, des petites communautés de gens en recherche qui peuvent être des exemples pour les autres.
Mais tout ce que vous dites est absolument vrai. Je n'ai rien à ajouter. Vous l'avez très bien formulé. Et vous prouvez d'ailleurs que cette théorie, vous, même dans ce langage, comment vous dire, extérieur, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous l'exprimons, nous essayons de formuler, peut se formuler assez simplement. Vous voyez, ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre. L'homme est en lui-même déjà une communauté. Déjà une communauté existentielle, une communauté qui est ouverte à autrui. Peut-être un jour, vous allez rencontrer un digger. C'est tout à fait possible. Ils sont parmi nous. Et tout simplement, contrairement aux grandes religions qui s'exposent, et qui s'exposent si mal d'ailleurs, par l'Inquisition, comme cela est arrivé au christianisme, par les guerres, par le djihad, comme cela est arrivé à l'islam. Donc on essaie de propager sa religion. Ce n'est pas du tout le cas de ces penseurs-là. Ce n'est pas du tout le cas. Ils n'imposent. C'est pour ça que je suis très réticent pour imposer cette voie, pour vous expliquer en détail ce qu'il faut faire. Je ne suis pas votre maître à penser, ni le directeur de conscience.
Mais dernière chose, chacun peut-il ressentir ce déclic de la troisième naissance?
S'il le fait comme ça, il ne ressentira rien, je pense. Je ne pense pas, parce qu'il faut quand même être un peu concentré, c'est-à-dire être profond, être intérieur. Surtout ne pas penser à une posture, qui est une posture d'un être supérieur qui a tout compris et qui va le dire, qui va regarder tout le monde de haut. Non, on n'a pas à se regarder de haut, parce que nous sommes exactement dans la même situation de pauvres mortels à qui il reste quelques milliers de jours à vivre, mais c'est largement suffisant pour découvrir la voie.
La voie.